Chapitre 3. Amant. En abordant le chapitre 3, remarquons sa relation avec les chapitres qui précèdent. Le sujet capital du chapitre 1 est la désobéissance de l'épouse gentile. Après ces choses, chapitre 2 verset 1, vient au chapitre 2 l'avènement de l'épouse juive, cachée aux yeux de tous quant à son origine, mais déjà aimé et reconnu du souverain avant la grande tribulation qui tombera sur le résidu de Juda et de Benjamin. Après ces choses, chapitre 3 verset 1, nous trouvons au chapitre 3 l'avènement de l'ennemi héréditaire, soutenu par le chef des nations et tirant de lui son autorité. Il devient, avec la connivence de l'Empire, le promoteur de la grande tribulation. Mais la grâce de Dieu délivre le peuple de la main de l'ennemi, pour donner à Mardochée et à Esther la première place dans le royaume. Cherchons maintenant à nous rendre compte de l'origine et du caractère d'Amant. Il était fils d'Amedata, l'Agagite, verset 1. Agag est le titre des rois d'Amalek, titre probablement générique comme celui du Pharaon, roi d'Égypte, 1 Samuel 15, versets 9 et 32, Nombre 24, verset 7. Amant était donc de race royale. Amalek, le peuple d'Ammon, descendait d'Ésaü par Éliphaz. Il est primitivement un chef, puis devient une peuplade d'Édom. Genèse 36, versets 12 et 16. Sous Ézéchias, en effet, on voit que les restes d'Amalek demeuraient parmi les Édomites, c'est-à-dire dans la montagne de Séir, territoire de ces derniers. 1 Chronique 4, versets 41 à 43. Amalek occupait la région sud-est des monts de Séir, et probablement une partie des déserts de Sin et de Paran. Cette position géographique explique l'intérêt capital qu'avait Amalek à s'opposer à la marche d'Israël pour entrer en Canaan, Exode 17, car il occupait les premiers contreforts de la Palestine et en défendait la frontière méridionale, Nombre 13 verset 30, 14 verset 45, 1 Samuel 15 verset 7 et 27 verset 8, par laquelle cette contrée était la plus facilement abordable. À diverses reprises, nous voyons Amalek ligué avec d'autres nations contre Israël. Ainsi, en Juge 3, versets 12 et 13, avec Moab, ce qui explique la mention d'Agag dans la prophétie de Balaam contre Balaak, roi de Moab. Nombre 24, verset 7. Au chapitre 6, verset 3, des Juges, nous le voyons associé à Madian, dans une haine commune contre le peuple de Dieu. Les Amalékites furent défaits par Saül, 1 Samuel 15, et finalement par David, 1 Samuel 27, verset 30, selon la prophétie de Balaam sur l'étoile qui surgira de Jacob et le sceptre qui s'élèvera d'Israël. Alors, dit le prophète, Amalek était la première des nations, et sa fin sera la destruction. Nombre 24, verset 17 à 20. Comme prophétie accomplie, cette étoile est David. Et, comme prophétie non accomplie, Christ, le fils de David. Nous avons donc affaire en Amalek à l'ennemi du peuple de Dieu. C'est Amalek qui, le premier, s'oppose à la marche d'Israël sortant d'Égypte, Exode 17, lui qui poursuit et extermine sans pitié les faibles, les traînards, d'un peuple fatigué par la traversée du désert. Il est, en un mot, l'ennemi. Il est l'image de Satan. L'ennemi par excellence. Il s'oppose au dessein de la grâce de Dieu envers son peuple. Sans l'intercession de Moïse sur la montagne et sans Josué, il anéantissait le peuple. Quand ce dernier a pris possession du pays, il cherche à l'anéantir en détail. Vaincu finalement par David, il ne considère pas encore la lutte comme terminée. Maintenant que le peuple est captif, réduit par son infidélité au dernier degré d'abaissement, il anime la personne d'Amant, l'Agagite, pour exterminer les faibles restes de ce peuple et, ne l'oublions pas, son but caché est de soustraire Israël à Christ, le roi des conseils et des promesses de Dieu. Peut-il y avoir un dessein d'une ruse plus satanique que celui-là? Frustré dans ses efforts, comme ce livre nous l'apprend, Satan ne se tient pas pour battu. Il s'attaque au chef même d'Israël, à Christ. Il essaie à sa naissance de le faire mourir par le moyen d'un nouvel Agag dans le meurtre de Bethléem. Il est déçu de nouveau et soulève à la croix le monde entier contre Christ. Et c'est au moment où il croit triompher dans la mort qu'il est définitivement vaincu. Cependant, il conspirera jusqu'au bout contre l'Éternel, son oint et son peuple. Aussi, l'Éternel a juré qu'il aurait la guerre contre Amalek de génération en génération. Exode 17, verset 16. Israël ne devait pas oublier d'effacer la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Deutéronome 25, verset 19. Terrible jugement, auquel nul n'est comparable dans la parole, si ce n'est celui d'Édom dont Amalek faisait partie. Revenons au livre d'Esther. Israël est esclave, sans défense et rejeté. Seul le rejeton d'une famille royale réprouvée résiste à l'Agagite. Tout doit favoriser les desseins de celui-ci. Mais s'il hait le peuple, c'est à sa tête qu'il en veut. Au seul qui refuse de courber le genou devant lui et de lui rendre hommage, obscure image de celui qui, en un temps futur, refuse de reconnaître Satan lorsque, du haut de la montagne, il lui montre tous les royaumes de la terre. Ce descendant d'Agag, apparaissant subitement sur la scène, venant on ne sait d'où, mais actuellement porté à la dignité suprême par le roi des nations, qui l'élève et place son siège au-dessus de tous les princes, cet ennemi juré d'Israël, ce méchant, réussira-t-il dans ses desseins? Si nous nous reportons à la fin de l'histoire prophétique d'Israël, nous nous rendrons encore plus exactement compte de tout ce que cette scène signifie. Nous trouverons dans l'Apocalypse une sorte de trinité satanique liguée contre Christ et contre son peuple. C'est d'abord Satan, dont l'esprit anime les puissances de ce monde. Ensuite, le chef du quatrième empire, comme Assuérus est le chef du second. Enfin, l'Antichrist. Ce dernier sera exalté par le souverain du quatrième empire, comme Aman le fut par Assuérus. Israël, ce pauvre oiseau craintif, pourra-t-il échapper au filet de l'oiseleur? Nous apprenons par la prophétie que tout le projet satanique pour anéantir le résidu d'Israël ne réussira pas mieux qu'il n'a réussi dans l'histoire d'Esther. Nous avons déjà cherché à décrire le caractère d'Assuérus et celui d'Esther, nous réservant de développer au cours de ce récit, puis de résumer celui de Mardochée. Mais nous pouvons dès l'abord faire le portrait de l'ennemi qui reparaît ici d'une manière si inopinée. C'est l'orgueil indomptable, l'exaltation, la déification de lui-même, la haine atroce contre le peuple de Dieu et contre celui qui le représente. Or, pour se venger de lui, il sacrifie la nation tout entière. C'est enfin la ruse et l'habileté infernale déployée pour ce meurtre. C'est, en un mot, l'incarnation de l'esprit du mal. N'est-il pas celui qui dit « Venez et exterminons-les, de sorte qu'il ne soit plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël » Psaume 83, verset 4. Mardochée, le pauvre homme sans défense, pourra-t-il lui résister? La merveilleuse délivrance du peuple se renouvellera-t-elle maintenant qu'Israël n'est plus le peuple de Dieu, qu'il n'y a plus de Moïse et d'Aaron intercédant pour lui, plus de Josué pour le conduire, et qu'un simple décret du roi suffit pour l'anéantir tout entier? Amalek triomphera-t-il ici, quand Israël est sans armes et sans ressources? Mais a-t-il triomphé de Christ à Bethléem, dans le désert, sur la croix? En toutes ces occasions, la victoire de Christ a été complète, et cela en faveur de son peuple. Sur la croix, par le don de lui-même, au désert, par la simple dépendance de la parole de Dieu. Mais, pour Mardochée, la parole de Dieu est muette. On ne la trouve nulle part dans ce récit, et pour cause, quoique de fait elle existât au milieu du peuple. Mardochée, a-t-il donc une ressource pour éviter la mort? Rien n'est plus facile, dira-t-on. Qu'il accepte l'édit du roi et rende hommage à Aman. Mais non, Mardochée se souvient qu'il y aura toujours guerre avec Amalek. Il ne se prosternera pas plus devant la Gagite que Daniel devant Darius. La seule différence est qu'il était défendu à Daniel de se prosterner devant Dieu, tandis qu'il est ordonné à Mardochée de se courber et de se prosterner devant Aman. Vraie figure de Christ par anticipation, Mardoché s'y refuse. Il peut dire comme son maître « Va, arrière de moi, Satan !» Il a guerre perpétuelle avec Amalek. Il n'a pas d'autre raison de sa résistance à donner à son entourage que le fait qu'il est juif. Verset 4. Il ne peut pas, comme Daniel, déclarer ouvertement par son attitude qu'il est serviteur de Dieu, car tous peuvent lui dire « Où est ton Dieu ?» Cela explique que, tout en défendant à Esther de déclarer son origine, lui est tenu de déclarer la sienne. Note 1. C'est une belle confession, le seul témoignage qu'il puisse rendre à sa relation avec le Dieu d'Israël, mais un témoignage suffisant pour déchaîner contre lui la colère de l'ennemi. Cette déclaration nous fait penser à la belle parole du Seigneur en Gethsémané, « C'est moi ». Seulement cette dernière attire le jugement sur Christ seul, pour que les siens soient délivrés, tandis que la confession de Mardoché attire la vengeance sur tout son peuple. Cette attitude n'est aucunement de l'orgueil chez Mardoché. Il reconnaît pleinement les droits du chef des nations sur lui et son peuple, droits ordonnés de Dieu comme châtiment, mais nullement les droits d'Amalek. Quoique placé sous le jugement, quoique apparenté à la race royale rejetée à cause de la chair, et que Dieu ne reconnaît plus, il obéit néanmoins à la parole de Dieu gardée dans son cœur en ne se courbant pas devant Amalek. Il y a une grande beauté dans ce caractère de Mardoché. Nous avons déjà vu ses soins tendres et délicats pour la fille d'Israël captive. Nous voyons maintenant sa courageuse détermination d'obéir au commandement de Dieu, restant ferme, inébranlable, quoi qu'il puisse lui en coûter, marchant dans la dignité d'un Israélite, tombé sans doute au plus bas, mais objet, malgré tout, des promesses sans repentance et de l'élection de Dieu. Pareil à la fureur de l'Antichrist contre ceux qui ne reconnaissent pas sa puissance et son autorité et ne veulent pas porter sa marque sur leur front et sur leurs mains, la fureur d'Aman contre un homme qui méprise sa personne et n'accepte pas son joug ne connaît plus de bornes. Mais ça aurait été une chose méprisable à ses yeux de mettre à mort Mardoché seul. Il faut que ce dernier soit frappé dans tout son peuple. Aman jette le pur, ou le sort, dans le but de savoir quand cette extermination aura lieu. Il a foi dans cette pratique superstitieuse, comme l'Antichrist plus tard consultera le Dieu des forces, car il faut une religion à l'homme le plus incrédule, à la fois athée et superstitieux, fait que l'on peut constater chaque jour. Vasti s'était révoltée en la troisième année d'Assuérus, Esther devient épouse du roi en la septième, et le sort est jeté au début de la douzième année du règne de ce dernier. Le pur indique le douzième mois pour le massacre des Juifs. Pourquoi pas le troisième ou le quatrième, afin d'ôter au peuple opprimé toute chance d'échapper? N'est-ce pas encore et toujours la providence cachée qui dirige tout? Que peut faire l'oppresseur des Juifs devant les conseils secrets de la providence? Il est obligé d'obéir au sort qu'il a consulté, et là commence sa course rapide à la mort et au jugement. Il n'a pas de peine à convaincre le roi de la nécessité d'anéantir les Juifs. Il y a un peuple dispersé et répandu parmi les peuples dans toutes les provinces de ton royaume, et leurs lois sont différentes de celles de tous les peuples. Ils ne pratiquent pas les lois du roi, et il ne convient pas au roi de les laisser faire. Aman propose d'enrichir le roi par cette destruction. « Je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains de ceux qui font les affaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. » Assuérus refuse l'argent et livre le peuple à Aman pour en faire ce qui sera bon à ses yeux. Quelle indifférence, quel endurcissement de cœur chez ce roi. Le nom d'Israël n'a pour lui aucune signification. Il fait la guerre à l'Éternel que ses pères avaient connu, que lui ne connaît pas. Mais le sort d'une multitude de ses sujets ne lui importe aucunement. Un favori, un homme inique, chose affreuse, a plus d'importance aux yeux du souverain, qui devrait s'intéresser à ses peuples, que l'existence de toute une nation. Combien il diffère de son père Darius et de Cyrus, son ancêtre. Ce décret, qui embrasse toutes les provinces de l'Empire, ira sans doute aussi atteindre et exterminer à Jérusalem le résidu restauré par l'ordre de Cyrus, est maintenu par ses successeurs, et le roi ne s'en souvient pas. « Fais, dit-il, ce qui est bon à tes yeux, c'est-à-dire fais le mal impunément. L'anneau royal orne la main d'amant qui en appose le sceau au décret meurtrier. Amant écrit au nom du roi et se fait en apparence son humble serviteur dans les choses que lui-même a résolues et décrétées. Des circonstances semblables se renouvelleront à la fin des temps. L'Antéchrist se fera le serviteur de la bête romaine, Apocalypse 13, versets 14 à 16, pour accomplir ses propres desseins. Le plan satanique d'Aman a pour point de départ l'orgueil et l'ambition de l'homme qui préfère écraser toute chose sous ses pieds que de les voir assujettis à Christ. Le décret se répand promptement dans les provinces de l'immense empire grâce à un système de transmission qui ferait l'admiration du monde s'il n'avait été mille fois dépassé par la génération actuelle. Pendant ce temps, le roi et Aman étaient assis à boire. D'une part inconscience, de l'autre joie satanique dans le mal. Le vin dans lequel l'homme puise l'oubli, qu'il entretient dans son indifférence, qui engendre la violence, qui provoque la joie de l'abrutissement au milieu des ruines qu'il accumule, le vin scelle cette alliance intime entre le prince des ténèbres et le souverain déifié des nations. La ville de Suse, habituée à tout autre chose qu'à ses boucheries, capitale du faste, des jouissances, d'une civilisation raffinée, était dans la consternation, tandis que le grand nombre des Juifs qui y habitaient était littéralement écrasé par ces nouvelles imprévues. Plus que 12 mois, et l'immolation sera accomplie. Toutes les dépouilles du peuple appartiendront à l'Amalekite. Plus que 12 mois. Mais le Dieu caché aux yeux de tous veille, et son jugement est proche.